Je vous invite à considérer un peu dans la série qu'on a, petite série qu'on est en train d'étudier sur l'épître de Paul à quoi? Aux Colossiens, voilà, on était dans le verset chapitre 3 et on était dans une petite partie où l'apôtre Paul parle de la calomnie, on avait considéré la calomnie, hein. Donc on avait appelé ça les péchés de bouche, un peu, hein. Pas de George Bush, hein, mais de notre bouche à nous, hein. Il parle de la parole, si vous regardez dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle de ce qui doit mourir dans nos membres, et il parle des paroles mauvaises. Colossiens 3, il dit à partir du verset 8, « Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. » Ça, c'est quelque chose qui a lieu aux paroles. Et puis, il ajoute aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et puis, ne mentez pas les uns aux autres. C'est encore ici quelque chose qui vient de la parole, mais pas que. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas combiner cela, puisque c'est ce qu'on voit avec la famille aussi. Et parler de la parole, mais dans le domaine de la famille, parce qu'on trouve ce verset-là ici, et puis en Éphésiens, au chapitre 4, regardez Éphésiens, chapitre 4, on a un passage où il est versé, déjà au verset 25, il dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres ici. » Et puis, un peu plus bas, au verset 29, il dit quoi ici? Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Donc avec ces versets-là et d'autres, hein, on peut aussi inclure ça dans la famille parce que on peut voir que une famille qui vit en Christ, que ce soit la famille physique ou la famille de l'Église, même, donc on peut inclure les deux, hein, la famille de l'Église et puis la famille biologique, eh bien, elle a besoin de dialoguer avec des paroles. Et souvent, quand les choses ne vont pas, c'est que parfois, hein, il y a eu des paroles, hein, qui ne se sont pas bien passées. On connaît des familles, ça existe dans nos familles, hein, physiques, hein, qui traînent des choses depuis des décennies, des paroles qui ont été dites, qui avaient été rapportées de l'un, de celui-ci, de celui-là, etc. Et puis ça fait que les gens sont à 80 ans, à 85 ans, il y a encore du désordre relationnel. Tout ça pour une parole qui avait été dite en un temps quelque part. Donc, construire une famille en Christ, c'est aussi construire une famille qui communique bien, qui dialogue selon ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alors, on a besoin, l'Écriture nous montre qu'on a besoin dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres, mais surtout particulièrement dans la famille, d'avoir un dialogue qui soit un bon dialogue, qui puisse aider le foyer à vivre, à développer une famille en Christ. Que fait le premier homme quand il voit la première femme? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est sa communication? Puisqu'on parle de communiquer. Il dit, voici celle, oui, qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. D'accord? Ça évoque quoi comme sentiment, ça? Un peu. Ah, voici celle qui est os de mes os. C'est quoi? C'est de l'aversion? Ou plus, il est en train d'exprimer son accueil, sa joie même, on pourrait dire, hein, d'avoir enfin une aide qui semble. Ce n'est pas les animaux qu'il vient de nommer là ici, mais c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui est semblable à lui. Mais si vous considérez, juste après la chute, lorsque Dieu vient voir Adam, et il lui dit, Adam, où es-tu? Et puis il explique, je me suis caché, j'étais nu. Et puis Dieu lui dit, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, défendu de manger? Et qu'est-ce qu'il dit? La femme que tu m'as donnée. Alors, vous avez remarqué qu'il disait, on l'appellera femme. C'est-à-dire un peu Isha, je crois qu'il dit ça. Et puis là, il dit, c'est la femme que tu as mise ici auprès de moi, et elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, c'est plus une parole d'accueil, c'est une parole, on pourrait dire ici, ou d'affection, c'est une parole d'accusation. D'accusation. Et on voit que dès le jardin d'Éden, déjà, la relation, mais même au niveau du dialogue, on pourrait dire, était déjà un peu détériorée, hein, dans la manière d'exprimer les choses. Il y avait déjà une accusation qui est portée sur l'autre. Et donc le péché détruit la relation, bien sûr, avec Dieu, mais il détruit aussi la relation de la première famille, de l'homme envers son épouse, et puis aussi d'un frère envers son frère. On a vu ça dimanche dernier, où Caïn va tuer Abel. Heureusement, dans sa grâce, Dieu envoie son fils Jésus-Christ qui va rétablir les choses et permettre que l'homme et la femme rachetés puissent retrouver un dialogue sain, un amour sain dans le couple. Mais l'expérience nous montre que ça n'est pas si facile que ça, parce que l'Écriture regorge d'exhortations pour nous dire attention, attention à la manière avec laquelle vous parlez. D'accord ? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans différents passages. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous dis. Voilà, donc on va considérer ce passage-là. On va regarder d'abord Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, où il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ça, c'est adressé à tous les chrétiens, y compris aux couples, aux familles, d'accord, et à la famille de l'Église aussi. On est dans la famille de l'Église. En toute humilité, je vous rappelle, Éphésiens, c'est une lettre qui traite de la famille spirituelle de l'Église. Hein. C'est le thème de l'Épître aux Éphésiens. En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et puis des versets 17 à, on va pas tout lire, mais des versets 17 à verset 29, on a vraiment la marche du croyant. Celui qui marche en nouveau-né en Christ. Et donc le verset 25 dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle, voilà, on a la parole, selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alors, j'ai mis ici plusieurs choses. Pour que nous puissions avoir un dialogue édifiant, puisqu'il s'agit ici d'avoir des paroles qui édifient. Vous avez vu le verset 29, hein, qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Donc, pour que nous puissions avoir un dialogue qui est édifiant, à la fois dans l'Église et aussi dans le foyer, eh bien, premièrement, on pourrait dire qu'il faut faire l'effort d'une écoute attentive. Il faut faire l'effort d'une écoute attentive, ici. C'est ce que Paul dit dans le verset 24. Et ce verset, il suggère qu'un dialogue qui édifie, d'accord, passe par l'écoute de l'autre, car il faut répondre à son quoi ? À son, on l'a dit tout à l'heure, besoin. Puisqu'il y dit, c'est une parole qui va communiquer une grâce. L'autre, il a besoin de cette grâce de Dieu. Et il faut que je parle de manière à répondre à son besoin. Proverbe 17, 27, je vous lis, dit ceci. Hein, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Alors, on a tendance à beaucoup parler plus qu'à écouter, ce que Jacques dit, ainsi que tout homme soit prompt à parler, à écouter, d'accord? Lent à parler, mais prompt à écouter. Et nous avons plutôt tendance à parler. Vous avez déjà vu quand il y a une difficulté relationnelle, soit dans le couple ou entre deux personnes, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on écoute sagement? Non, on a plutôt tendance à vouloir prendre la parole. Il y a parler à parler pour avoir un peu le dessus. C'est un match de paroles et on veut avoir le dessus. Et donc cela nous indique que naturellement, dans un dialogue, on n'écoute que très superficiellement. Quand on est dans un dialogue, on écoute souvent avec beaucoup de superficialité. Donc l'écoute attentive, qu'est-ce qu'elle fait ici? L'écoute attentive place la compréhension avant l'exhortation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour dialoguer de la manière avec laquelle l'apôtre Paul dit ici, dans le couple, dans le foyer, dans la famille, avec les enfants, etc., il faut placer la compréhension avant l'exhortation. On sent toujours qu'on a besoin de dire aux autres ce qu'il faut faire. Exhorter. Voilà comment tu devrais te conduire. C'est comme ça, etc. On est quelque part on veut dire, indiquer ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas forcément toujours compris de quoi il s'agit. Et il faut prendre le temps pour comprendre. La Bible dit ceci en Proverbe 18, 13, vous l'avez ici. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. D'accord? Parfois, vous êtes dans une situation, un échange, et puis vous tirez déjà une conclusion dans votre tête, et puis vous parlez suivant cette conclusion, mais vous n'avez pas suffisamment écouté, vous n'avez même pas compris la situation. Et vous avez dit une parole qui se révèle être une parole de folie, simplement parce que nous n'avons pas écouté pour essayer de comprendre quelle est la situation. Et donc, l'effort d'une écoute attentive, ça passe par une écoute qui place la compréhension avant le fait de vouloir donner des exhortations aux autres. Apprendre à écouter attentivement, chercher à comprendre. Chercher à comprendre l'autre. C'est ça qui est important ici. Et donc ce texte-là de Proverbe met en évidence la folie que c'est de répondre sans avoir écouté. Et souvent, on dit que le message, hein, ce que veut dire l'autre, c'est pas simplement dans les mots qu'il utilise, mais c'est souvent derrière les mots. Il faut comprendre ce qui se cache parfois derrière les mots. Si vous regardez la petite image qu'on a vue tout à l'heure, hein, que dit la femme à son mari quand elle dit que tu ne m'aides jamais à faire le ménage? Hein, qu'est-ce qu'elle dit ici, hein? Elle est irritée, ça se voit, hein, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, j'ai besoin d'aide. Elle le dit bien ou pas? Non. Mais la réalité, c'est qu'elle a besoin d'aide ici, quand même. Hein? Ça se voit, elle a besoin d'aide. Et le mari doit comprendre cela derrière sa manière de s'exprimer. Elle ne fait pas bien, d'accord. Mais il veut pas. S'il lui dit, ben, quand tu parleras bien, je le ferai, ça va pas non plus. Hein? Ce n'est pas une bonne manière de faire. J'aime dire, derrière les mots, M-O-T, est-ce qu'il y a des mots? MAUX. Hein? C'est-à-dire que derrière les phrases, les mots que l'on prononce, il peut y avoir un mal ou des mots que l'on porte avec soi. Et dans une relation, particulièrement dans le couple, on doit apprendre à comprendre ces choses-là. Deuxièmement, hein, l'écoute. Alors il y a des mots. Hein, c'est le MAUX, c'est ce qui vous manque ici. Deuxièmement, ici, hein, pour un dialogue constructif, eh bien il faut dispenser. Non, j'ai oublié quelque chose là. Hein. J'ai oublié le deuxième point. L'écoute attentive demande parfois une clarification, c'est ça mon mot, avant la classification. Parfois, on est comme un juge à faire classer. J'ai compris, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, j'ai déjà compris ce que tu veux dire. Et on est un peu prétentieux parce qu'on croit qu'on a tout compris tout de suite du premier coup. Et on a cerné le problème. Mais des fois, il faut dire, attends, explique-moi un peu plus. J'ai pas bien compris. Je veux être sûr d'avoir bien compris. Et dans un dialogue constructif, on va poser une question, une deuxième question, pour être sûr d'avoir bien compris avant de classer l'affaire, de juger, et puis que les choses ne partent dans le mauvais sens. Deuxième point ici, j'ai mis ici la dispense de paroles constructives. Il faut dire aussi des paroles constructives. C'est ce que l'apôtre Paul dit, regardez encore le verset. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. » Donc il faut dire des paroles qui vont faire du bien, qui vont construire. Donc il faut faire l'effort de se, pour dire des paroles, il faut faire l'effort de se parler. Eh oui, parfois on ne se parle pas, il faut faire l'effort de se parler. Quand on est en froid, le premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est le mutisme. On boude, on ne parle pas. On fait payer l'autre par notre silence. S'il vient nous dire bonjour, on tourne la tête pour ne pas répondre. Des fois, ça arrive aussi dans l'église, parfois, plus d'une fois, n'est-ce pas? Parce qu'on est fâché contre, on ne lui parle pas. D'ailleurs, même les enfants à la cour de maternelle, ils font la même chose. Je ne te parle pas. C'est une manière de dire, voilà, on est. Donc, voyez à quel point le dialogue est important. C'est le silence en musique, c'est un art, mais dans le dialogue, dans la famille, c'est une arme, c'est pas un art. Et donc, il faut se parler. Quand l'apôtre Paul parle ici, il dit, voilà, il faut vous parler, que chacun parle à son prochain, d'une certaine manière, mais que chacun parle à son prochain. Et Dieu nous a créés pour avoir des relations les uns avec les autres et pour que nous puissions nous parler les uns aux autres. Et donc, dans l'Église, dans le couple, on doit développer cela. On doit deuxièmement être conscient, si on veut dispenser des paroles constructives, être conscient du pouvoir des mots. Être conscient du pouvoir des mots. Et les mots ont un pouvoir. La Bible dit en Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » On sait bien qu'on peut tuer avec la langue, on peut faire vivre avec la langue. C'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas croire que les mots que nous employons sont neutres. On peut blesser profondément quelqu'un avec nos mots. Et souvent, dans les relations familiales, les gens avec lesquels on est le plus proche, c'est celles auxquelles on dit le plus, avec lesquelles on prononce les mots les plus durs. On sera peut-être fâché contre quelqu'un dans la société, dans l'église, on va dire les choses pour montrer qu'on est fâché, mais dans le foyer, parfois, bien c'est là où on utilise les mots les plus tranchants. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Et parfois, la mauvaise parole, elle sort, et ça c'est très grave, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la bouche prononce des paroles mauvaises et méchantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient du cœur, que le cœur il n'est pas en bon état du tout. Donc il faut être conscient quand nous dialoguons, nous échangeons, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre foyer, que ce soit avec nos enfants, que les mots ont un pouvoir. Donc on peut construire un enfant avec de bonnes paroles. Et je cite souvent cet exemple de cet homme qui a écrit beaucoup de livres les relations, il a fait beaucoup de relations d'aide, mais qui, quand il était jeune, il a dit, il bégayait beaucoup. Et il n'osait pas prier quand il était à l'église. Et il dit qu'un jour, il a pris son courage à deux mains, il a voulu prier. Mais après, c'est bien parti. Puis quand il a commencé à bégayer, il a perdu tout son sens. Il a même perdu le sens des versets bibliques. Sa théologie était devenue vraiment quelque chose de catastrophique. Il dit, je me souvenais d'avoir remercié le Saint-Esprit, d'avoir été cloué à la croix, et puis un autre truc. Il a tout mélangé, tellement il bégayait. Et il a dit, j'ai réussi à dire Amen. Il dit, ce qui était peut-être le premier signe de l'Esprit. Hein. Et donc il dit, ce que j'ai fait à la fin du culte, je me suis dit, je vais courir au fond avant qu'il y ait quelqu'un qui se trouve dans l'obligation de me dire que ce que j'ai dit était faux. Il court au fond. Et puis, il veut partir et là, il trouve un vieux monsieur à la porte qui met la main sur son épaule et puis qui lui dit, je veux que tu saches que quoi que tu fasses, je serai toujours là avec toi. Et il écrit ça dans son livre et il dit, au moment où j'écris ça, j'ai encore les larmes aux yeux. Il dit, et vous ne pouvez pas savoir comment ces paroles-là m'ont poursuivi. Et dans ce même livre, il raconte l'histoire d'un père qui était très riche et qui avait dit à son fils, moi, je m'attends au fait que lorsque tu, à ma mort, que tu prennes la succession de cette entreprise, et je m'attends à ce que tu l'amènes à la ruine. Et il dit que l'entreprise a effectivement été conduite à la ruine par le fils. Pas parce que le père l'avait prédit, mais parce que cette parole l'avait et resté dans son esprit, dans son cœur, et l'a poussé à l'alcoolisme, etc., le manque de confiance dans lequel avait son père. Donc, il a fait que des bêtises simplement parce que c'était une parole qu'il a détruite. Il a été détruit par la parole de son père. Et on peut détruire des gens avec une phrase, avec une parole. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Jacques lui-même, il dit que la langue, il parle du pouvoir de bénédiction de la langue. Il dit par cette langue, nous pouvons bénir, mais nous pouvons aussi maudire. On peut à la fois bénir et à la fois maudire. Et il faut faire attention à cela parce que Dieu va nous demander des comptes. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. D'accord ? Et il y a un passage qui dit que nous devrons rendre compte pour toute parole vaine que nous aurons prononcée, que ce soit aux gens à l'extérieur, que ce soit à l'église, que ce soit dans le foyer envers les enfants, envers le mari, envers la femme, nous allons devoir rendre compte pour tout ce que nous disons et qui ne glorifie pas Dieu et qui contribue à la destruction plus qu'à la construction. Et puis troisièmement ici, donc rechercher... Quoi ici ? L'édification de l'autre. Hein. Rechercher l'édification de l'autre. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais dites seulement des paroles qui aident aux autres selon leurs besoins. Donc cela veut dire qu'il faut être attentif aux besoins des autres. De quoi a besoin le frère dans l'église ou la sœur ? De quoi a besoin mon épouse ? De quoi a besoin mon mari ? De quoi ont besoin mes enfants ? Et les paroles que je prononce doit aller dans le sens d'une édification, de répondre à ce qui est leur besoin. Pas de les détruire, mais de les construire. Édifier, donc, ici, édifier, ça signifie quoi ici ? J'ai mis ici édifier. L'autre suggère quoi ici ? Alors, normalement, j'avais mis ça ici. Hein. Où est-ce que j'ai noté ça dans mon papier ? Voilà. Édifier l'autre suggère une connaissance de l'autre dans son être et dans ses besoins. Édifier l'autre suggère une connaissance de l'autre dans son être et dans ses besoins. Je dois apprendre à connaître mon épouse, à connaître mon époux, à connaître mon frère et sœur, mes frères et sœurs. Téléphoner, prendre de leurs nouvelles. Si je veux être une aide dans les paroles que je vais leur apporter. Ensuite, on tourne la page ici. Édifier l'autre demande aussi du discernement. Édifier l'autre demande du discernement. Proverbe 15, 23 dit qu'on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. On peut être à contre-temps et parler au mauvais moment. Ça peut arriver. Parfois, il y a des moments où il ne faut pas parler parce que ce n'est juste pas le moment. Il faut juste écouter, ne rien dire, prier. Et puis, il y a d'autres moments où il faut le faire. Donc, ça demande un discernement. Mais si on demande au Seigneur la sagesse, il nous la donne pour le faire. Il nous la donne pour le faire. L'apôtre Paul disait en Colossiens 4, je ne sais pas si vous avez mis le verset ici, mais en Colossiens chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. » Pourquoi faire, il dit ?« Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » On ne répond pas à tout le monde de la même manière. Et donc, il faut de la sagesse pour savoir comment répondre. Il dit donc qu'il faut mettre du sel et de la grâce dans vos paroles pour pouvoir répondre convenablement aux autres selon leurs besoins, avoir du discernement. Il faut donc prier pour cela. Et puis, un dernier point que je vais, troisième point que je vais souligner, on va s'arrêter à celui-là parce que le temps passe. Mais dans le fait de construire un dialogue édifiant dans la famille, le couple ou l'église, il y a, troisièmement, l'exigence de la transparence, hein, l'exigence de la transparence ici. Et ce qui est impressionnant de voir, c'est combien le mensonge souvent façonne notre relation, les relations, les hommes, les uns envers les autres. On ment, on dit souvent comment respire. Et ça arrive dans le monde, mais malheureusement, ça peut arriver aussi dans l'église et dans le foyer. On est même venu à classer parfois les mensonges, hein, grand mensonge, petit mensonge, hein, et même on dit demi-mensonge et demi-vérité. Hein, il y a toutes les classifications, mais un mensonge, c'est un mensonge. Et un grand ennemi du couple, de la famille, de l'Église, des relations dans l'Église, c'est le mensonge, le manque de transparence. D'ailleurs, Jésus dit que le diable, il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Dès le jardin d'Éden, c'est ainsi qu'il a agi. Et donc, il y a un aspect, quand on parle de la transparence, un aspect positif, et offensif, un aspect défensif, souvent. Hein. Non seulement il ne faut pas mentir, mais l'apôtre Paul dit qu'il faut dire la vérité. Quelle est la différence entre ne pas mentir et dire la vérité? Est-ce que vous voyez? Je peux ne pas mentir et cacher la vérité. D'accord? Si on me pose une question, est-ce que tu as fait ça? Je réponds par la vérité. Oui, je n'ai pas menti. D'accord? Mais je peux ne pas dire ce que j'ai fait. Je parle quand on est dans une relation de couple, hein, surtout. Hein. Par exemple, dans la famille. Hein. Donc parfois, quand il dit mais que chacun parle à son prochain selon la vérité, il y a des moments où il faut dire les choses. Parfois, ça peut être dans une relation avec quelqu'un à l'église où je dois dire au frère ou à la sœur cette chose parce que c'est une vérité que l'Écriture m'oblige à dire. Mais des fois, on peut dire, bon, moi, je ne dis pas, il va se débrouiller. Hein. Dieu va nous demander de rendre compte parce qu'il y a quelque chose que l'on a vu, on aurait pu aider en disant la vérité, on ne dit pas la vérité. Alors parfois, ça blesse de dire la vérité. Il faut être sage. Mais il y a des vérités qu'il faut dire. Et dans le foyer aussi, on doit être, surtout dans le foyer, on doit être transparent. On ne doit pas avoir son petit secret à soi. Et puis l'un a son petit secret à lui, l'autre il a son petit secret, etc. Et chacun vit avec ses choses à côté. Et on ne sait pas qui fait quoi, etc. Ça n'est pas une chose qui est convenable selon ce que la parole de Dieu dit ici. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Si je vois quelque chose qui n'est pas correct chez mon conjoint, je dois lui dire la vérité dessus. Si sa réaction ou sa gestion d'une situation n'a pas été sage, il faut lui dire avec sagesse afin qu'il puisse corriger aussi. Mais il faut aussi que je l'autorise à la même chose envers moi. Hein, qu'il me dise aussi les choses qui ne vont pas, aussi avec amour, mais qu'il me dise. Et les frères et sœurs dans l'Église, dans nos relations aussi, hein, nous pouvons aussi nous entraider de la même manière. Mais je dois aussi dire spontanément la vérité qui me concerne. Par exemple, on lit dans Jacques, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Parfois, ça peut arriver qu'il y ait une difficulté relationnelle dans un foyer, par exemple. Hein, je prends l'exemple d'un foyer. Et puis, bien, on ne le dit pas. Ça peut se comprendre. Parfois, on peut être gêné, on ne le dit pas. Mais le fait de ne pas le dire fait que la situation s'envenime. Et puis, quand on en vient à le savoir, eh bien, les choses sont déjà arrivées trop, parfois bien, souvent, trop loin. On est déjà au bord, et c'est extrêmement difficile, parfois, d'intervenir parce que beaucoup de choses se sont installées dans les cœurs, beaucoup d'animosité, beaucoup de ressentiment, etc., etc. Et c'est très difficile, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est une manière de dire la vérité. Frère, tu peux prier pour moi parce que, voilà, ça ne va pas. J'ai vraiment besoin, je sens que je coule, j'ai vraiment besoin. Avant que ça aille trop loin, j'ai besoin que tu pries pour moi. On n'est pas là pour juger les autres, mais on est là pour être des frères et sœurs d'une famille, hein, s'entraider les uns les autres et prier les uns pour les autres. C'est ce qu'il dit, hein. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tout le monde dit, quand il n'y a pas de confession et qu'il n'y a pas de prière, il y a peu de chances qu'il y ait une guérison. Souvent on dit, je vais me débrouiller tout seul. Parfois, je vais me débrouiller tout seul. Non, on a besoin les uns des autres. C'est ainsi que Dieu veut les choses. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la Bible dit que la vérité dans l'amour, c'est mon dernier mot, la vérité dite dans l'amour permet la croissance spirituelle. Croissance spirituelle du couple, croissance spirituelle du foyer, croissance spirituelle de l'Église. Éphésiens 4, 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Voilà pourquoi les paroles sont importantes. Je m'arrête là. Et on a besoin que le Seigneur nous donne sa sagesse pour considérer comment nous pouvons parler. Comment nous devons faire attention à ce que nous disons dans l'Église, les uns aux autres, dans le foyer, dans le couple. Nos paroles révèlent pas simplement ce que l'autre est, mais ce que moi-même je suis. Donc je peux analyser l'état de mon cœur par la nature des paroles et des propos qui sortent de ma bouche dans la relation que j'entretiens avec ma femme, avec mes enfants, avec les frères et sœurs dans l'Église. Et donc c'est très, très important. Dieu veut que nous soyons des familles unies, solides, mais il veut que nous construisions pour cela un dialogue qui édifie, qui construit, hein, qui aide l'autre à grandir spirituellement, pas qui détruit et qui va à la destruction individuelle et à la destruction même de la famille. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans notre monde et malheureusement aussi dans les foyers chrétiens. Nous pouvons prier que Dieu nous aide, que Dieu préserve et qu'il nous aide à mettre cela en pratique afin qu'on puisse croître vraiment, comme il le dit ici, afin qu'on puisse grandir à tout point de vue vers celui qui est la tête, vers Christ. C'est comme ça que nous construirons une famille en Christ dans un monde en crise.